à toutes et à tous. Je suis ravi aujourd'hui d'être sur Next Flash pour vous parler de la réforme du droit des entreprises en difficulté du 15 septembre 2021. Donc ça commence à dater, effectivement, qui était une ordonnance qui rentre en vigueur le 1er octobre 2021. Mais l'idée, c'est de vous faire un retour d'expérience pratique sur les dossiers que nous avons pu traiter ici chez Will Kiffard et dans mon équipe Restructuring depuis cette nouvelle réforme, et d'en tirer des conclusions et d'en tirer des pistes d'amélioration sur la base de ces retours d'expérience. De façon assez intéressante, de toute façon, dans notre domaine, on a des réformes tous les 5 ans, donc on sait qu'il y a une nouvelle réforme qui va arriver. Il y a déjà d'ailleurs un groupe de travail qui a été chargé, je cite, de la simplification du droit des entreprises en difficulté, qui a été un groupe qui a été créé le 27 mai 2025, donc on sait qu'en fonction des travaux et des conclusions, nous aurons de nouveau une réforme, puisque notre droit change régulièrement, à la fois pour s'adapter, puisque c'est un droit très pratique, dont l'objectif évidemment est toujours le même depuis l'historique de ce droit, qui est à savoir sauver les entreprises, le savoir-faire et les salariés. Et donc ce droit s'adapte aux spécificités, que ce soit économiques ou au quotidien des entreprises. Nous avons eu la chance ici, depuis la réforme, de traiter bon nombre des dossiers de place. Le premier, juste après la réforme, avec lequel on a un peu essuyé les plâtres, c'était Orpea, devenu Emeis depuis, pour lequel nous intervenons pour les bondholders. Alors, je vais employer beaucoup de mots anglo-saxons, j'en suis désolé, mais la réforme fait qu'on s'est beaucoup inspiré du droit anglo-saxon, et j'y reviendrai. Donc on intervenait pour les obligataires qui, en définitive, ont pris 49% du capital aux côtés de la Caisse et de la Maïf, compris 51%. Et derrière, on a enchaîné, et on a eu de la chance là-dessus, avec Casino, Atos, Altice, et j'en passe. Et ça, sur ces dossiers-là, nous étions côté créanciers. Et après, nous sommes intervenants aussi côté société, dans des dossiers comme la Berry, Bâche ou autre. Cette réforme, les principaux changements de cette réforme ont été les suivants. C'est un changement total de paradigme par rapport à ce qu'on connaissait avant, dans le sens où le cœur de cette réforme, c'est la valeur économique de l'entreprise qui doit se restructurer. Et en fonction de cette valeur, et j'y reviendrai, on sait qui est dans la monnaie ou en dehors de la monnaie, à savoir où casse la valeur. Et donc le groupe qui est dans la monnaie, et quel que soit le niveau des créanciers, etc., c'est celui qui aura, je dirais, le lead sur la restructuration. Et donc, cette réforme, très inspirée quand même du droit anglo-saxon et très inspirée du Chapter 11 aux États-Unis, a fait que, notamment côté créancier, on a vu l'émergence de classes de créanciers. C'est-à-dire que maintenant, les créanciers votent par classe, sachant que dans chaque classe sont mis des créanciers qui ont des intérêts économiques équivalents. Avant, les créanciers votaient en 3 groupes, pour la faire simple, et on va parvenir sur la genèse de toute l'entreprise en difficulté, mais il y avait 3 groupes, il y avait un groupe d'obligataires, un groupe de créanciers bancaires et un groupe de fournisseurs. Et en fait, on mélangeait des créanciers qui étaient avec des sûretés ou sans sûreté, alors qu'aujourd'hui, effectivement, comme c'est en fonction de la valeur économique et des créanciers, on met dans chaque classe des créanciers qui ont le même niveau, les mêmes sûretés, etc. Qu'est-ce que ça change en pratique? Ça change qu'effectivement, le point clé, c'est ce que je disais, c'est la valeur de l'entreprise, à savoir qui est dans la valeur et qui n'est pas dans la valeur. Et donc, ça engendre un nouveau rapport de force entre les différentes parties, à savoir principalement la société, les dirigeants, les créanciers et les actionnaires. Du fait que quand on arrive dans une entreprise qui connaît des difficultés, la plupart du temps, la valeur, évidemment, même dans tous les cas, ne casse pas chez les actionnaires. Puisqu'en fait, si elle cassait chez les actionnaires, qui est en fait maintenant traité comme un créancier, mais comme le créancier le plus junior de tous, en fait, la valeur casse au-dessus. Et donc, en fait, le nouveau rapport de force, clairement, l'actionnaire qui avait avant une sorte de droit de veto, puisque toute restructuration devait être votée en Assemblée Générale des actionnaires. Donc effectivement, il fallait qu'on ait leur vote et donc il fallait qu'on leur propose quelque chose qui puisse par lequel on pouvait obtenir leur vote. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'actionnaire vote dans une classe de créanciers juniors à tous les autres. Et donc, par un certain nombre de systèmes dont je reviendrai, en fait, il n'a plus ce droit de veto. Et donc aujourd'hui, dans le rapport de force, je dirais que l'actionnaire est devenu un peu le partenaire sacrifié de l'entreprise, parce qu'effectivement, il n'est plus dans la monnaie. Et notamment, quand on fait des restructurations de sociétés cotées, ce que l'on fait très souvent, avant, l'AMF avait un poids très fort en disant « vous devez traiter les actionnaires en-delà de la valeur qu'ils devraient avoir, au-dessus de la valeur qu'ils devraient avoir ». Or, aujourd'hui, l'AMF n'a plus cet argument, puisque dans la loi, le créancier et l'actionnaire est un créancier junior. Donc, dans le rapport de force, effectivement, il a perdu de son rapport de force. Les dirigeants et la société ont toujours une sorte de lead dans la restructuration, ce qui est normal, puisque ce que je disais en propos introductif, c'est que le but, c'est effectivement de sauver la société, les emplois, le savoir-faire. Et surtout, les procédures, quand nous avons une boîte à outils dans les entreprises en difficulté, que sont, et je n'y reviendrai, enfin, je ne vais pas en détail, ça prendrait trop de temps, mais les procédures amiables avec le mandat ad hoc et la conciliation, et les procédures dites plus collectives avec sauvegarde accélérée, sauvegarde classique et redressement judiciaire. Et celui qui a l'initiative de ces procédures, ça ne peut être et ça n'est que le dirigeant de la société. Donc il a forcément un levier là-dessus. Il a également un levier parce qu'en termes de retour pratique, comment se passent ces restructurations, c'est que dès le jour 1 ou 2 de la restructuration, la société et les dirigeants expriment un besoin de new money, d'argent frais à injecter dans la société. Et c'est ce besoin de new money qui va être assez central dans nos discussions, à savoir qui peut les mettre. Alors évidemment qu'il y a une priorité de ceux qui sont dans la monnaie, comme je l'expliquais, c'est-à-dire ceux qui ont la valeur économique de l'entreprise, mais au-delà de ça, qui peut les mettre et qui peut ne pas les mettre. Donc clairement, la société et le dirigeant ont un poids qui continue à être très important. Et enfin, je dirais, la dernière catégorie d'acteurs dans nos dossiers, ce sont les créanciers. Alors, vous avez différentes typologies de créanciers. Vous avez les créanciers bancaires et les créanciers fonds, que ce soit fonds de dette, hedge fund ou autres. Ces créanciers peuvent avoir des sûretés, donc ils sont seniors ou juniors, etc. Et quand la valeur casse dans tous ces dossiers, quelque part dans les créanciers, de la savoir c'est où quelque part. Est-ce que ce quelque part est au niveau des créanciers obligataires? Est-ce que ce quelque part est au niveau des créanciers RCF, des créanciers seniors, etc. Et donc, il y a une discussion qui se met en place dès le début avec un nouvel acteur qui arrive aussi, qui est la valo de l'entreprise. Qui fait la valo et quelle est la valo exacte de l'entreprise pour savoir un peu quels seront les rapports de force à la fin. Quand je parlais des nouveaux outils, c'est que les nouveaux outils pour forcer un deal, puisqu'un deal, vous pouvez le trouver soit en amiable, mais en amiable, il vous faut l'unanimité des parties autour de la table. Donc, ce n'est pas forcément l'unanimité de toutes les parties prenantes d'une société, puisque ça, la plupart du temps, on ne touche jamais aux fournisseurs. On ne va jamais discuter avec les fournisseurs, parce qu'ils sont clés pour l'entreprise. Donc, en fait, on parle de dette financière ici. Et donc, en amiable, il vous faut l'unanimité de la dette financière, enfin, l'unanimité des parties prenantes, la société, les actionnaires, les créanciers. Mais si vous n'arrivez pas à l'unanimité, ce qui est la plupart du temps le cas, et on l'a vu dans tous les précédents que j'ai cités tout à l'heure, que ce soit Orpea, Casino, Altis, Atos, vous devez passer derrière en sauvegarde accélérée. Et en sauvegarde accélérée, ça vous permet de passer outre, je dirais, le refus de certaines classes de créanciers via ce qu'on appelle, et désolé, c'est encore un terme anglo-saxon, le cross-class cramdown, qu'on va appeler triple C, qui permet effectivement à des classes de créanciers qui sont dans la valeur de forcer des classes de créanciers qui ne sont pas dans la valeur à accepter un deal, ce qui permet de trouver un deal, ce qui est une très bonne chose. Et après, vous avez un autre concept, et encore une fois une expression anglo-saxonne, qui est le best interest test, où en fait, si vous devez absolument désintéresser une classe senior dans la totalité si vous voulez donner quelque chose à une classe plus junior. Tout ça est très technique, mais c'est juste pour avoir les grands aspects de la réforme. Et vous avez un dernier point sur la réforme qui était intéressant, c'est que si vous mettez de l'argent frais pendant une procédure de sauvegarde ou de sauvegarde accélérée, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle un privilège de post-monnaie, c'est-à-dire comme vous mettez un argent à risque, ça vous permet derrière, s'il devait y avoir un nouveau restructuring, d'être protégé et qu'on ne puisse pas vous imposer, comme je viens de l'exposer, des efforts si vous ne le souhaitez pas. Une fois qu'on a basé ce cadre-là, c'est quoi l'intérêt de cette réforme? L'intérêt de cette réforme, il est clair, c'est qu'on est aujourd'hui, sur des gros dossiers évidemment, sur des dossiers plus classiques, c'est peut-être moins le cas, mais on est dans un marché mondial où en fait la dette, à la base, est souvent pris auprès de banques et autres, ou auprès d'obligataires, se trade. C'est-à-dire quand les entreprises ont des difficultés, la dette change de main avec des prix décotés, c'est-à-dire que vous avez une valeur de dette de 100 euros qui peut se vendre à 20 euros, 30 euros, etc. Et donc, le fait d'avoir cette visibilité maintenant avec un système qui est très proche de ce que connaissent les fonds anglo-saxons, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, leur permet de savoir faire et d'avoir cette visibilité. Puisque comme c'est la valeur économique qui est au milieu, on sait à peu près où va tomber la restructuration. Après, il peut y avoir, on peut rentrer dans une restructuration avec une valeur en tête et en fait, apprenant des mauvaises nouvelles les unes après les autres, puisque l'entreprise est un être vivant et quand elle connaît des difficultés, il peut y avoir des difficultés qui s'amoncellent malheureusement, on peut rentrer en pensant être dans la valeur et pendant la discussion, on est en dehors de la valeur. Je prends l'exemple de Casino. Nous, on était pour ce qu'on appelle les unsecured. Quand on est rentré dans le dossier Casino, on était dans la valeur. Malheureusement, après quelques mois, on était en dehors de la valeur. Donc ça peut arriver aussi. Mais le système fonctionne très bien, donne plus de visibilité et d'objectivité à des restructurations. Et ça permet effectivement de restructurer, encore une fois sur le dossier que j'ai cité, des milliards de dettes avec une vraie efficacité. Maintenant, Est-ce qu'on peut améliorer ce système aujourd'hui? Oui, possiblement, et je vais y revenir. Et qu'est-ce que nous a appris ce que l'on a pu faire dans tous ces dossiers? D'abord, clairement, je trouve que c'est un système qui marche très bien pour des dossiers de bonne taille. L'ordonnance, elle est très claire. Ne s'applique automatiquement les classes de créanciers pour des entreprises qui ont 250 salariés ou plus et qui font 20 millions de chiffre d'affaires ou plus, ou alors, le deuxième critère, qui font 40 millions de chiffre d'affaires. Mais on le voit, 20 millions et 40 millions, c'est des seuils qui ne sont pas non plus très élevés. Et donc, sur des sociétés de plus petite taille, c'est quand même un système qui est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Je ne parle pas de l'amiable, c'est assez facile et ça fonctionne, mais les sauvegardes accélérées, c'est très complexe. Pourquoi ? Parce qu'il faut créer ces systèmes de classe de créanciers, parce qu'en fait, la séquence dans par la pratique, c'est très clair. On discute en amiable, en conciliation. Une fois qu'on voit qu'on a un accord, mais qui ne pourra pas être pris à l'unanimité, on rentre dans ce qu'on appelle un lock-up, c'est-à-dire les gens qui sont d'accord avec cet accord signent cet accord. Ça prend du temps aussi. Et une fois qu'on a ce lock-up, on passe en sauvegarde accélérée, parce que dans l'ordonnance, il est marqué que pour pouvoir passer en sauvegarde accélérée, il faut démontrer qu'on a un soutien suffisant des créanciers, d'où l'intérêt du lock-up, parce qu'on peut savoir quel est le nombre de créanciers qui soutiennent l'offre, enfin qui soutiennent la restructuration. Et derrière, on passe en sauvegarde accélérée, où il y a le vote des classes de créanciers, etc. Donc le système est très efficace, mais probablement plus complexe que ce qu'on connaissait avant. En termes de retour d'expérience, ce qui était intéressant, c'est qu'au moment de l'ordonnance, parce que j'ai exposé que c'est la valeur économique qui est centrale, on pensait que l'un des acteurs centraux de nos nouvelles procédures, entre guillemets, c'était l'expert indépendant, parce qu'il faut que l'expert indépendant soit désigné pour objectiver cette valeur. Et on pensait, comme je le disais, en fait, la négociation, elle se passe quand? Elle ne se passe pas pendant la sauvegarde accélérée, elle se passe avant, pendant la conciliation. Et on pensait qu'on aurait accès à ces rapports d'experts indépendants pendant la conciliation. L'expérience montre qu'en fait, le rapport de l'expert indépendant désigné par le tribunal, il arrive au moment de la sauvegarde accélérée quand le deal est fait. Et donc, dans la plupart des cas qu'on a eu à gérer, le rapport de l'expert vient valider un sentiment qu'on a pu avoir, ou vient valider, puisque chaque partie aussi dans des gros dossiers prennent son expert, donc il y a des guerres d'experts, mais en fait, il vient valider a posteriori. Donc, il est en fait, en réalité, moins central que l'on aurait pensé. Sur le rapport de force aussi, mais ça c'est un détail, ce qui est assez amusant dans la réforme, c'est que on le voit bien, les classes de créanciers, c'est central pour pouvoir obtenir un plan. Et avant, qui représentait les créanciers? C'était les mandataires et non pas les administrateurs judiciaires. Or, dans l'ordonnance, celui qui est en charge de composer les classes de créanciers, c'est l'administrateur judiciaire. Donc les mandataires ont perdu probablement moins de pouvoir, entre guillemets, dans les procédures de ce fait-là. Après, il y a une certaine logique aussi, puisque comme je l'ai dit, c'est les classes de créanciers qui permettent de sortir un dossier. L'administrateur judiciaire, lui, son rôle était justement de trouver des solutions pour la société. Mais c'est vrai que les mandataires ont malheureusement perdu une partie de ce qui aurait dû être leur chasse gardée. Autre point, c'est que, en pratique, en fait, quand on voit dans l'ordonnance, il devait y avoir un traitement égalitaire de chaque classe de créanciers. En fait, en pratique, ce que l'on voit, c'est qu'on est parti sur quelque chose d'un peu plus souple, parce que notre droit, encore une fois, dont l'objectif est de sauver le savoir-faire, les entreprises et les salariés, on doit avoir un peu de souplesse. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, quand on voit les textes, il y a de la souplesse. Et en fait, on est passé à quelque chose qui est différent, qui est une égalité d'opportunité. C'est-à-dire que typiquement, prenons la new money, par exemple. La new money doit être offerte, enfin doit, en tout cas dans les dossiers, est souvent offerte à tous. Et après, il y a un traitement différent selon ceux qui font la new money et ceux qui ne font pas la new money. À partir du moment où on a donné cette égalité d'opportunité. Donc on a un peu assoupli le process. Et quand vous faites de la new money, dans les dossiers aussi, vous pouvez, c'est un peu technique, élever votre ancienne dette. C'est-à-dire vous avez de l'ancienne dette parce que vous faites de la new money, vous faites 1 euro de new money. En pratique aussi, vous pouvez élever 1 euro d'ancienne dette qui devient senior aux autres dettes pour un remboursement, mais en plus, s'il doit y avoir un nouveau cadre de restructuration, bah, effectivement, vous êtes devenu senior. Ce que l'on voit également en pratique, c'est, et qui était déjà le cas, mais on continue malgré tout à avoir un poids assez fort des banques. Pourquoi on a un poids assez fort des banques? C'est que vous avez quand même une spécificité en France qui est le monopole bancaire. C'est-à-dire qu'il y a certaines lignes de financement qui ne peuvent être faites que par les banques. Et je dois dire, et à juste titre, d'ailleurs, les banques l'utilisent beaucoup dans nos négociations. Je fais un aparté, mais je ne travaille jamais pour les banques, même si j'ai de très bons amis dans les banques, mais donc je vois comment elles agissent. En fait, elles utilisent cette faculté de pouvoir donner certaines lignes pour essayer de demander un traitement différent. Par exemple, dans le casino, comme il y a beaucoup de lignes bilatérales d'exploitation, elles ont eu un traitement différent au sein de la même classe de créanciers par rapport à des fonds de dette qui ne pouvaient pas faire certaines lignes. En revanche, dans d'autres dossiers, comme Atos, on a tenu bon et on a eu un traitement équivalent. Mais ça, c'est un sujet, et je dois dire, et ce n'est pas juste parce que je ne travaille pas pour les banques, je trouve que le monopole bancaire, c'est quand même quelque chose d'une spécificité française sur lequel on devrait réfléchir, et c'est, je dirais, un de mes dadas, entre guillemets, parce que je pense que ça enlève de la fluidité au marché. Ensuite, l'une de mes autres passions, entre guillemets, sur une potentielle réforme, c'est le devoir fiduciaire. Comme je l'expliquais, aujourd'hui, toutes nos restructurations est basée sur la valeur économique. Or, la valeur économique, elle ne casse jamais, elle n'est jamais au niveau des actionnaires. Or, ce qu'on voit en pratique, c'est que le management, il garde évidemment un devoir fiduciaire envers la société, ce qui est logique, puisqu'il est dirigeant de la société. En revanche, il continue à garder un devoir fiduciaire vis-à-vis de son actionnaire, alors qu'il devrait avoir dans ces moments-là un devoir fiduciaire vis-à-vis des créanciers, puisque la valeur est chez les créanciers, et les créanciers sont les propriétaires économiques de l'entreprise à ce moment-là. Or, ça n'existe pas, parce qu'en pratique, à chaque fois, comment on fait? Quand on représente un groupe de créanciers significatif, on écrit des courriers au conseil d'administration. Sincèrement, dans la plupart des cas, ils ne nous répondent même pas. Or, en fait, la valeur économique est chez nous. Donc ça, c'est quelque chose qui manque, je pense, dans la réforme, enfin dans la loi, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout du concept de valeur économique. Et ça, ça ne marche pas très bien. Et puis, peut-être un dernier point, mais qui est un peu plus technique, c'est que quand vous avez des sûretés et que vous êtes un créancier, vous êtes considéré comme voté dans une classe de créanciers seniors. La réalité, c'est que parfois, vous avez des sûretés qui ne couvrent pas la totalité de votre dette. Vous avez une dette de 100. Si votre sûreté, que ce soit une hypothèque ou autre, vaut 30, la question, c'est est-ce qu'on vote au niveau de 100 dans la classe de créanciers sécurisés ou est-ce qu'on vote au niveau de 30? La jurisprudence a réglé certains points, mais je pense qu'il serait bon dans la réforme de l'évoquer précisément pour qu'on ait une sorte de enfin quelque chose de clair face à ça. Et puis, dernier point, c'est le rôle de l'État. Parce que je parlais des acteurs et des rapports de force. Évidemment, dans les dossiers de taille significative, l'État est impliqué d'une manière ou d'une autre. Il est impliqué pour, évidemment, le sauvetage des emplois. Et il est impliqué, en fait, avec deux casquettes à chaque fois, qui fait que l'État a toujours une position un peu schizophrène. Il a sa position de créancier, puisque, évidemment, souvent, et il le regrette, mais c'est la réalité, la dette fiscale et sociale est un moyen d'éviter de se retrouver en cessation des paiements et donc d'avoir un peu de cash pour le temps des discussions. Et donc ça, c'est sa casquette de créancier. Et puis la casquette d'État de sauvetage de l'emploi, du savoir-faire et des sociétés. Et c'est vrai que ces derniers temps, le rôle de l'État, pour toutes les raisons qu'on connaît, qui se passent, etc., a diminué et c'est plutôt reporté sur son rôle de créancier avec des demandes en tant que créancier qui sont parfois plus exigeantes même que les demandes des banques ou des créanciers obligataires ou autres, etc. Et en oubliant un peu leur rôle, je dirais, d'État protecteur, etc. Et pourquoi? Parce que, et c'est pas une volonté, mais à partir du moment où l'État protecteur, c'est aussi mettre de l'argent dans les sociétés, c'est aussi avoir un certain pouvoir sur les autres acteurs, etc., on doit constater ces derniers temps que malheureusement, ce rôle-là est devenu moins fort, et sincèrement, on peut que souhaiter qu'il devienne plus fort, parce que c'est très utile dans nos discussions, évidemment que sur les gros dossiers, on va aux scieries, etc., mais c'est très utile dans nos discussions d'avoir un autre acteur qui peut pousser à une solution. En revanche, avec cette nouvelle réforme et ces dernières années, aujourd'hui, il n'y a plus de sujet, notamment côté État, puisque j'en parle, d'avoir des fonds qui prennent le contrôle des entreprises parce qu'ils voient bien que, un, ça fonctionne et que, deux, prenons un exemple d'Atos, par exemple, qui était coté, Atos n'avait pas d'actionnaire de référence avant même la restructuration. Et donc, quand on a pris le contrôle d'Atos, entre guillemets le contrôle, mais en tout cas, quand on est devenu les seuls actionnaires d'Atos, puisqu'en fait, il y avait deux banques à la fin et que des fonds de dette, et on a pris 100% d'Atos, à chaque fois dans ces restructurations, et pour l'exemple d'Atos, le plus gros créancier, c'est-à-dire le plus gros fonds, se retrouve avec maximum 5%. Donc en fait, il n'a pas du tout le contrôle. Et donc, quand la société est cotée, ça ne change rien en réalité. Et ça permet quoi? Ça permet, puisque la dynamique de nos restructurations, c'est la chose suivante, ça permet d'équitiser de la dette, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une dette qui diminue parce que la dette se transforme en capital, et c'est un des moyens de gérer le levier, parce que dans tous ces dossiers, le problème, c'est un problème, il y a des problèmes d'oom, un problème de besoin de new money, un problème de levier. Et donc, quand les créanciers sont force de proposition, ça leur permet d'équitiser une partie de la dette, donc de diminuer le poids de la dette, tout en remettant une nouvelle ligne de dette ou de financement, et tout en sécurisant pour certains, ou en s'élevant en termes de sûreté, sur la dette restante. Et donc, en fait, autant, il y a quelques années, on pouvait avoir des discussions là-dessus, aujourd'hui, ça ne pose plus de problème, et c'est très positif pour notre industrie et notre économie.